Le grand jury RTL Le Figaro LCI, spécial élections européennes. Première invitée, la tête de liste de La République En Marche, Nathalie Loiseau. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour, bienvenue à vous dans ce grand jury spécial, donc élections européennes, avec deux invités aujourd'hui dans la seconde partie de l'émission. Eh bien, nous recevons Guillaume Pelletier, premier vice-président des Républicains et soutien de François-Xavier Bellamy. Mais nous commençons donc avec la tête de liste de La République En Marche, la liste Renaissance, ouais. Avec vous, Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume, et Adrien Jeanne de TF1. LC.
Bonjour.
Alors Nathalie Loiseau, pour la première fois hier dans notre baromètre Harris Interactive, la liste soutenue par Marine Le Pen dépasse la vôtre, 22,5% contre 22% pour La République En Marche. Donc un demi-point, certes, mais ce croisement des courbes est révélateur des difficultés que rencontre votre campagne depuis quelques jours, quelques semaines. Vous comptez donc sur la présentation de votre programme que vous avez donc fait mercredi avec en point d'orgue l'écologie pour vous relancer dans cette campagne. Mais cela sera-t-il suffisant ou Emmanuel Macron devra-t-il venir à votre secours, le chef de l'État qui s'implique déjà dans votre campagne avec cette semaine des cartes postales quasi quotidiennes au risque de rendre l'enjeu national et de le placer, lui, au centre du débat. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission, mais nous commençons tout d'abord par quelques questions d'actualité et bien sûr la prise d'otages et la libération des otages. La question vous est posée par Guillaume Roquette.
Oui, Nathalie Loiseau, ce matin, la mère du colonel Beltrame dénonce le comportement, je cite, très égoïste de ces deux touristes français enlevés au Bénin et dont la libération a entraîné la mort de deux militaires. Comportement très égoïste, est-ce que vous partagez ce jugement ?
Écoutez, moi je suis d'abord dans le recueillement pour les deux militaires français qui ont donné leur vie pour sauver la vie de deux autres Français. Ils sont morts au champ d'honneur, ils sont morts dans leur mission. La mission des militaires français, c'est de nous protéger, c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que l'heure est au recueillement, certainement pas à la polémique.
Est-ce qu'il faut, cela dit, en tirer des leçons et changer le comportement, appeler les Français à changer leur comportement dans leur voyage et les agences de voyage également? Le ministre Jean-Yves Le Drian y faisait allusion hier.
Écoutez, il y a des conseils aux voyageurs, il y a des zones qui sont déconseillées, il y a des zones dans lesquelles la prudence est fortement conseillée. Après, c'est le rôle de chacun. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons des troupes en Afrique, en particulier au Sahel, qui luttent contre ces mouvements terroristes, qui ne sont plus seuls aujourd'hui, qui sont accompagnés par des troupes européennes, et c'est heureux. Mais vraiment, il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup dans notre pays, c'est cette façon de faire de la polémique sur quelque chose qui est d'abord une tragédie. Et je pense que d'abord, on doit remercier les forces armées françaises de toujours se porter au secours de nos compatriotes.
Mais est-ce que le comportement de ces deux personnes a été irresponsable, ou est-ce que vous dites que peut-être le Quai d'Orsay, vous étiez ministre aux Affaires européennes, n'a pas été dans son rôle pleinement en spécifiant précisément les zones à risque?
Écoutez, le risque, si on le connaissait à l'avance, personne ne le prendrait. Les deux otages libérés ont dit leurs regrets, ont dit leur imprudence. Mmh. Ils vont vivre ça, avec ça toute leur vie. Je crois que ça suffit.
Alors nous passons à une autre actualité, hein. C'est celle du glyphosate, elle est toute récente puisqu'il y a un rapport parlementaire du sénateur UDI de Haute-Garonne, Pierre Medevielle, vice-président donc de ce groupe d'une trentaine de parlementaires qui, selon la Dépêche du Midi, estime que le glyphosate est moins cancérogène, je cite, que la charcuterie ou la viande rouge. Dans ce groupe, eh bien, il y a aussi des marcheurs, comme Cédric Villani. Est-ce que vous partagez les conclusions de ce rapport, Nathalie Loiseau ?
Écoutez, d'abord, je n'ai pas vu ce rapport, j'ai simplement vu une dépêche.
Il y a eu des déclarations de ce sénateur, explicites, dans la Dépêche du Midi. Il y a une interview où il dit clairement que le glyphosate n'est pas dangereux pour la santé.
Écoutez, pardon de le contredire, mais pour moi, un sénateur n'est pas un scientifique. Un sénateur n'est pas un évaluateur. Il y a des études de l'Organisation mondiale de la santé qui désignent le glyphosate comme cancérogène probable.
Probable, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve.
Ah, écoutez, quand vous dites probable, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui laisse à penser que l'on peut se retrouver exposé à un risque de cancer en utilisant du glyphosate. C'est ça que ça veut dire probable. Et ce sont des scientifiques. Que chacun soit dans son rôle. Moi, ce que je souhaite, ce que nous portons, avec la liste que je conduis, c'est que nous ayons en Europe des agences d'évaluation des produits chimiques qui soit incontestable, indépendante et totalement transparente. Jusqu'à présent, il y a eu des efforts d'évaluation. On se souvient de la polémique parce que une partie du rapport d'une agence d'évaluation avait été copiée-collée de l'industriel, de Monsanto. Je vous rappelle aussi qu'on a découvert...
Ils ont peut-être été victimes d'un fox.
Je n'ai pas vu le rapport, je ne sais pas comment ils ont procédé. Moi, je ne parle pas sur des choses dont je n'ai pas tous les éléments. Et là, on est déjà en train de s'emballer, alors qu'on sait simplement qu'un sénateur nous dit qu'il vaut mieux le glyphosate que le saucisson. Excusez-moi, je trouve ça un petit peu léger. Et puis, ce que je rappelle, c'est qu'en début de semaine, on a appris que Monsanto fichait un certain nombre de politiques, un certain nombre de journalistes sur la base du bien ou du mal qu'ils pensaient du glyphosate.
Dont RTL, on est.
Ça aussi... Je m'engage à ce que les députés européens qui seront élus de ma liste soient totalement transparents sur qui ils rencontrent, sur quelles sont leurs activités. On ne peut plus laisser les lobbies
faire n'importe
quoi. Mais comment
est-ce qu'on empêcherait un lobby de ficher Nathalie Loiseau ? Parce que ce fichier, il était secret, bien évidemment.
Oui, mais c'est illégal. Il sera poursuivi.
Là, on le découvre après coup, grâce à une révélation.
Si les faits sont avérés, il sera condamné. C'est une raison de plus de soutenir les lanceurs d'alerte. C'est ce que fait l'Union européenne. C'est ce qu'a voté le Parlement européen. C'est ce que certains de mes opposants ont refusé de voter. On voit bien que c'est essentiel.
Mais est-ce que l'État français doit les poursuivre ?
Écoutez, je ne suis pas juriste au point de vous dire si c'est à l'État de les poursuivre. En tout cas, les personnes qui ont été fichées sont les bienvenues pour poursuivre Monsanto. Je sais que, notamment, une candidate qui est sur la liste Europe Écologie Les Verts a décidé de poursuivre. Elle est évidemment dans son rôle.
Mais c'est choquant qu'une
agence... Enfin, ça dit beaucoup de choses, quand même.
Pourquoi est-ce que c'est choquant qu'une agence de communication fasse la liste des gens et des responsables publics qui sont pour ou contre les idées de son client?
Mais parce que c'est interdit de lister les gens en fonction de leurs opinions.
Mais pourquoi
c'est interdit? Mais parce que c'est dans la loi. Enfin, écoutez, après, vous allez faire des fichiers sur la religion de tel ou tel. C'est strictement interdit. Et heureusement, mais ça dit quand même quelque chose. Si effectivement, et je suis prudent, Monsanto a demandé à connaître l'opinion d'hommes et de femmes politiques et de journalistes par rapport à un de ces produits, c'est qu'ils voulaient faire de l'influence ou même peut-être qu'ils voulaient essayer de déstabiliser ce qui lui était défavorable. Ça dit quelque chose sur notre démocratie et c'est important qu'on le sache.
Nathalie Loiseau, juste sur le fond quand même de ce dossier, Jérémy de Salles, qui est numéro 4 sur votre liste des jeunes agriculteurs, a une position pour le moment ambiguë sur le glyphosate. Il ne dit pas très clairement que ce produit est dangereux pour la santé et qu'il faut se presser de l'interdire.
Alors, ne parlez pas à sa place, parce que si Jérémy de Serles est sur cette liste, c'est précisément parce que nous voulons promouvoir une écologie qui ne met personne de côté. Nous voulons que les écologistes et les agriculteurs puissent trouver des solutions ensemble. Ce que dit Jérémy de Serles, ce que nous disons, c'est que nous voulons sortir du glyphosate et que nous voulons en sortir vite.
Alors quand 3 ans en France et 5 ans en... Est-ce qu'il faut aller plus vite que ça, Nathalie Loiseau? Quand vous voyez ce genre de rapport, est-ce qu'il faut accélérer l'interdiction?
Il faut évidemment se donner tous les moyens de sortir de produits herbicides, pesticides, dont on peut penser qu'ils sont dangereux pour la santé, dont on sait qu'ils sont dangereux pour l'état de notre planète.
Mais à quelle échéance? L'Europe, c'est 5 ans, la France, c'est 3 ans. Est-ce qu'il faut imposer à l'Europe que ce soit 3 ans?
Nous voulons trouver des solutions pour tout le monde le plus vite possible. Nous avons dit 3 ans. Aujourd'hui, 90% des territoires en France peuvent se passer de glyphosate. Il reste 10%. Pour ça, il faut de la recherche. Pour ça, il faut des moyens. Nous en mettons en place en France. Il faut que l'Europe aille plus vite. Et croyez-moi, si on peut dire à l'ensemble des agriculteurs qui peuvent mieux protéger leurs terres, parce que la plupart du temps, les terres sont abîmées par ces produits, et qui peuvent mieux protéger leur santé et celle des consommateurs, si toute l'Europe va du même pas, dans la même direction, ce sera meilleur pour nos agriculteurs.
Donc 3 ans, ce que vous souhaitez, c'est que ce soit 3 ans aussi pour l'Europe.
C'est ce qui est dans le projet.
Autre question d'actualité, Adrien Gindre.
encore un week-end de mobilisation des Gilets jaunes, mais la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes, c'est terminé?
Écoutez, c'est pas à moi de le dire, c'est aux Français, c'est aux Gilets jaunes eux-mêmes de choisir la méthode avec laquelle ils souhaitent s'exprimer. Il y a des listes, plusieurs, de Gilets jaunes aux élections européennes. Très bien, c'est la voie démocratique et qu'ils l'empruntent, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, hier, il y a eu une poignée de Gilets jaunes qui a voulu perturber un de nos meetings à Strasbourg, comme ils l'avaient fait à Caen. Ça, c'est contraire à la démocratie, c'est contraire à la liberté d'expression. Honnêtement, ça donne un mauvais signal. Moi, je ne vais pas dans des meetings de Gilets jaunes pour leur dire de se taire et pour leur imposer ma façon de voir les choses.
Vous craignez
la démocratie, c'est le débat
des élections européennes.
Écoutez, je crains pas grand-chose, d'une manière générale, mais aujourd'hui, ils ont décidé de présenter des listes. Apparemment, d'ailleurs, ils sont en désaccord, les listes, les unes avec les autres. Moi, ce que je souhaite, c'est que le pays puisse sortir de cette phase de violence, de cette phase de désordre. C'est ce qui semble être le cas depuis à peu près une semaine. Je crois que les Français sont soulagés parce qu'on a besoin d'aller de l'avant et pas de tourner en rond, même sur un rond-point.
Dernière question sur l'actualité avant d'en venir aux élections européennes. Guillaume Roquette.
Une procédure de référendum est en marche pour ou contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Mmh. Au gouvernement, on s'inquiète en disant que ce genre de procédure, de consultation populaire peut retarder l'adoption d'une loi. Est-ce que... Quel est votre point de vue ?
Écoutez, cette procédure, elle est prévue par la Constitution, elle a été validée. Maintenant, elle doit suivre son cours, elle doit réunir 4,7 millions de pétitionnaires. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement n'ira pas de l'avant dans la privatisation d'aéroports de Paris tant que la procédure ne sera pas terminée. C'est la conséquence de ce type de procédure, mais puisqu'elle a été enclenchée, maintenant, il faut qu'elle puisse aller
à son
terme.
C'est normal ou c'est regrettable qu'il faille sursoir à cette loi ?
Écoutez, je pense que c'est normal à partir du moment où cette procédure est possible. Il n'y a aucune raison de s'y opposer. Simplement, il faut bien mesurer qu'à chaque fois que cette procédure sera entamée, on ralentira le processus décisionnel en France. Mais il y a aussi une forte attente de démocratie participative dans notre pays aujourd'hui. Il faut être capable de l'entendre, c'est ce que fait le gouvernement.
RIP, mais pas de RIC, hein. Ça on l'a entendu, vous n'y êtes pas favorable au référendum d'initiative citoyenne que réclament les Gilets jaunes.
Écoutez, le référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune sécurité juridique, plus aucune stabilité juridique dans notre pays. On vote quelque chose et puis le lendemain on dit qu'on aurait fait autrement. Ça n'est bon pour personne.
Alors on en vient aux élections européennes, je le disais en introduction de cette émission, vous baissez dans notre dernier sondage Harris Interactive, vous êtes à 22%, dépassé donc par le Rassemblement National. Comment vous expliquez ce croisement des courbes alors que vous étiez en tête de la course il y a à peine 2 semaines avec 3 points d'écart, Nathalie Loiseau? Où est le problème? Est-ce que c'est votre candidature à vous ou pas?
Écoutez, aujourd'hui, on est dans la marge d'erreur. Il y a un demi-point entre le Rassemblement National et nous. Ça peut monter, ça peut descendre. Ça n'est pas significatif. Moi, je suis de l'école qui a connu Jacques Chirac et qui nous disait « il faut mépriser les hauts et repriser les bas ». Donc, je fais les deux. Ceci étant, ça dit quelque chose. Oui, ça dit quelque chose du fait que le Rassemblement National, dans son ancien nom, était le premier parti de France au Parlement européen. En 2014, il avait 25% des suffrages aux élections européennes. Ça dit que le risque est toujours là. Ça dit que ceux qui nous avaient accusés de parler d'un risque de victoire du Rassemblement National n'avaient simplement pas vu la réalité. Ça dit que rien n'est gagné. Ça dit qu'il faut se battre. Je me bats pour un projet et je me bats pour notre pays. Nous ne pouvons pas passer 5 ans de plus avec un parti qui va au Parlement européen et qui déteste l'Europe et qui veut l'émietter et qui veut l'affaiblir.
C'est exactement ce qu'a dit le président de la République cette semaine quand il s'est exprimé pour dire qu'il voulait tout faire pour battre le Rassemblement national. Il est également apparu dans une réunion de campagne cette semaine. Est-ce que ça veut dire que sur la fin de campagne, vous ferez campagne avec lui? Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce qu'on va le voir à vos côtés?
Écoutez, d'abord, nous sommes la liste. Une majorité élargie, pas la liste La République En Marche, parce que vous l'avez dit tout à l'heure et ça n'est pas exact. Nous sommes la liste d'une majorité élargie qui soutient l'action du président de la République dans son ambition de transformer l'Europe.
Lui va soutenir la liste jusque...
Écoutez, il est venu rencontrer les colistiers en début de semaine. Il s'exprime sur l'Europe régulièrement. C'est une de ses passions. Il a fait campagne en 2017 à la campagne présidentielle comme un Européen convaincu et exigeant.
Il est dans son rôle. Dans un meeting, est-ce que c'est vrai?
Non, c'est faux.
Donc c'est vous souhaitez qu'ils viennent, Nathalie Loiseau.
Écoutez, je serais ravie qu'ils viennent, les militants seraient enchantés qu'ils viennent. Je pense que mes colistiers aussi, Nathalie Loiseau. Et il fera ce qu'il veut, oui. Et je ne suis pas la porte-parole de l'Élysée.
Alors vous le souhaitez, vous le dites explicitement, contrairement aux rumeurs, vous voyez, vous les démentez. Est-ce que vous souhaitez qu'ils viennent dans la dernière ligne droite, vous prêter main forte, comme ce fut le cas de Nicolas Sarkozy en 2014, par exemple, avec sa liste?
Écoutez, j'ai pleine confiance dans son engagement, non pas dans une campagne, non pas pour un parti, mais pour que la France pèse en Europe. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait au sommet à Sibiu, en Roumanie, cette semaine. C'est ce qu'il fait en rencontrant le Premier ministre néerlandais. Nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui a aujourd'hui le leadership dans l'Union européenne. Et nous voulons, nous, apporter des troupes au Parlement européen pour pouvoir aller plus loin dans ce projet, parce que la France en a besoin.
Guillaume Roquette.
Mais en s'impliquant, de fait, il transforme un peu l'élection en référendum pour ou contre Macron. Et Marine Le Pen dit de ce fait, sa liste n'arrive pas, votre liste n'arrive pas la première, il faut qu'il se retire.
Écoutez, Marine Le Pen a été désavouée par l'ensemble de son parti, par l'ensemble de son mouvement, comme ayant eu une réaction ridicule. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des élus du Rassemblement National. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, depuis des mois, nous disent que cette élection, c'est un référendum anti-Macron. Ça en dit long sur leur projet pour les Français et sur leur projet pour l'Europe. Ils n'ont que ça à dire. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est que cette élection, c'est un projet pour les intérêts des Français, pour que nous soyons une Europe respectée, pour ramener le progrès. Et j'aimerais qu'on puisse parler
Vous avez placé sur l'enjeu national en disant il y a quelques semaines que battre le Rassemblement National serait la première victoire. Donc vous avez quelque part aussi, vous, nationalisé l'enjeu. Et d'ailleurs, seul tiers des Français votera sur des enjeux européens aux européennes, nous dit un sondage récent.
Écoutez, pourquoi est-ce que je veux battre le Rassemblement National? Parce que je regarde ce qu'il a fait depuis 5 ans au Parlement européen, je regarde son bilan, et ce bilan, c'est un désastre. Ce bilan, c'est d'avoir été toujours contre les progrès qui pouvaient servir les intérêts des Français. Contre la lutte contre le terrorisme, contre la lutte contre la désindustrialisation, contre le renforcement des frontières, et même contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Rassemblement National dit des choses à Paris, fait le contraire à Bruxelles et à Strasbourg. C'est ça que je veux combattre. C'est cet affaiblissement de la France, c'est cet affaiblissement du progrès en Europe.
Marine Le Pen qui vient de dire chez nos confrères de France 3 que Emmanuel Macron transformait tout en malaise en parlant de la libération des otages, en étant allé les chercher sur le tarmac de Villacoublay. Nathalie Loiseau.
Écoutez, j'aimerais qu'on parle d'Europe et je n'ai pas du tout envie de commenter les propos systématiquement haineux, systématiquement polémiques, systématiquement de caniveau de la patronne du Rassemblement National qui, elle, fait campagne à la place de Jordan Bardella.
Vous disiez, Nathalie Loiseau, que cette liste Renaissance était une liste de rassemblement avec plusieurs partis. Vous avez eu hier le renfort de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre venu de la droite. En revanche, on a appris que certains maires de grandes villes, Christian Estrosi, Arnaud Robinet, eux, choisissaient de soutenir François-Xavier Bellamy. Pourquoi est-ce que le rassemblement ne se fait pas avec vous? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait cru comprendre ces derniers mois qu'ils étaient plutôt favorables à la politique du gouvernement.
C'est quand même un scoop extraordinaire que des maires LR soutiennent le candidat LR. Je vous avoue, je suis bluffée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que...
Jusque-là, ils n'étaient pas si clairs dans leur position politique. C'est pour ça qu'on vous pose la question.
C'est un sauvetage. Oui, ils viennent au secours de François-Xavier Bellamy. Ils ont peut-être aussi des préoccupations locales et municipales à l'esprit. Je les y laisse, ça les regarde. Chacun est libre de soutenir la liste de son choix. Je ne leur fais aucun reproche. Quand Philippe Sorel, le maire de Montpellier, annonce hier qu'il soutient ma liste, c'est peut-être un tout petit peu moins évident. Il n'est pas La République en marche. Je l'en remercie.
Sur le fond, qu'est-ce qui vous distingue des propositions de François-Xavier Bellamy sur l'Europe?
Écoutez, ce qui nous distingue, c'est que nous sommes des pro-européens. Monsieur Bellamy, il a voté non au référendum de 2005. D'ailleurs, Monsieur Bellamy, il ne dit toujours pas pour qui il a voté au deuxième tour de 2017. Ça, pardonnez-moi, mais ça nous distingue très clairement. Et sur le projet, Monsieur Bellamy, il veut se protéger de l'Europe. Il a peur de l'Europe et puis il nous dit qu'il veut changer l'Europe alors qu'il est dans un parti qui a tous les leviers, tous les pouvoirs au Parlement européen, à la Commission européenne, et même le président du Conseil est de sa famille politique. Et là, il se réveille en nous disant il faut tout changer, alors qu'il est de la famille du statu quo européen.
Mais vous aussi,
nous, ce que nous disons, c'est que nous N'oublions jamais ce que nous devons à l'Europe. Nous sommes les plus pro-européens de cette campagne pour les européennes, mais nous disons aussi que nous voulons ramener le progrès en Europe. Nous voulons que l'Europe soit une puissance verte, qu'elle prenne la tête de la transition écologique. Je n'ai rien entendu de la liste des Républicains sur l'écologie. Nous voulons faire revenir le progrès technologique en Europe.
Alors,
nous voulons des champions industriels européens. Je n'ai rien lu sur l'économique, je n'ai rien lu sur le social. Dans le programme de M. Bellamy. C'est un choix, ce n'est pas le mien. Moi, je veux que demain, nos compatriotes, nos enfants, puissent en Europe se retrouver protégés et surtout revoir le progrès.
Et François Bellamy qui dit 1000 milliards, c'est le budget que vous voulez consacrer à l'écologie en Europe. C'est énorme par rapport au budget annuel de l'Europe. Que c'est de la surenchère par rapport aux Verts pour aller chercher les électeurs d'Europe Écologie Les Verts.
Ah, je n'y peux rien si M. Bellamy découvre l'Europe depuis 2 mois. Mais 1 000 milliards, ça n'est pas le budget de l'Union européenne dont nous parlons. D'abord, c'est l'évaluation qui a été faite par l'Union européenne des besoins de financement dans les 7 prochaines années si nous voulons simplement éviter un cataclysme climatique qui manifestement ne préoccupe pas les Républicains. Mais ces 1 000 milliards, ce n'est pas de l'argent public. Nous n'allons pas faire fonctionner la planche à billets. Ces 1 000 milliards, cela vient pour l'essentiel de l'épargne des Européens que nous voulons enfin orienter vers la transition écologique, vers les énergies propres, vers les transports propres. Arrêtez de financer les pollueurs. C'est une partie de budget public, mais une petite partie seulement.
Nathalie Loiseau, en revanche, qui nous aujourd'hui, nous regardent, s'interrogent quand même comment vous pouvez être crédible sur l'écologie alors que sa figure tutélaire en France. Nicolas Hulot, au mois de septembre, a quitté le gouvernement parce qu'il estimait que les ambitions d'Emmanuel Macron n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu.
Mais écoutez, il n'y a pas un pays au monde qui puisse se dire tranquillement qu'il est aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu climatique. Il faut que tous nous fassions plus. Le président
Donc vous
de la
n'avez
République,
pas fait suffisamment.
Le président de la République n'a pas dit autre chose. D'abord, beaucoup de choses ont été faites pendant 2 ans. L'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en France. Nous sommes le seul pays européen à l'avoir fait. L'annonce de la fermeture de toutes les centrales au charbon. Maintenant, il faut que ce soit l'ensemble de l'Union européenne qui en fasse autant. Nous avons fait énormément, mais il faut faire encore beaucoup plus. C'est une urgence. Ça n'est pas un hasard si c'est notre première priorité.
Alors, nous en venons à d'autres points de votre programme. C'est l'heure de Questions Express.
Le Grand Jury, Questions Express.
5 propositions concrètes, Nathalie Loiseau, pour ou contre ? Pour ou contre un président pour l'Europe ?
Écoutez, un président pour l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ?
Pour ou contre ?
Moi, je dirais partagé, parce que ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de la démocratie en Europe, que le Parlement européen et que le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement élus par leurs concitoyens, pèsent en Europe.
Un président élu ?
Est-ce que un président élu par qui, comment, aujourd'hui, les députés européens, c'est le plus important.
D'accord. Donc, vous restez mitigé sur la question.
Ouais.
Vous ne me dites pas ni pour ni contre.
Oui, mitigé.
Alors, la fin de la règle des 3% de déficit, pour ou contre ?
Contre. Parce que nous n'avons pas à léguer à nos enfants notre incapacité à faire des choix et notre incapacité à gérer nos pays.
Un salaire minimum européen ?
Des salaires minimums européens en hausse, parce qu'on ne peut pas rester avec un salaire minimum bulgare à 300 euros, qui est du même niveau que celui de la Chine.
Une armée européenne d'ici 5 ans.
Une armée européenne, bien sûr, c'est-à-dire des armées capables de travailler ensemble et des matériels communs, parce que face aux menaces auxquelles nous sommes exposés, nous ne pouvons pas continuer à nous disperser.
Avec un général en chef commun, c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire, est-ce que ça c'est possible ?
Ça n'est pas l'idée d'ici 5 ans. L'idée c'est d'avoir des armées qui peuvent, qui savent intervenir ensemble, avec des pratiques communes et avec des matériels communs.
Enfin, la Turquie dans l'Union européenne, pour ou contre, Nathalie Loiseau ?
Contre. Ce pays a choisi des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Ce pays a pris une direction politique très éloignée de la nôtre, donc résolument contre. D'ailleurs, le président de la République est le premier à l'avoir dit clairement et à l'avoir dit en face au président Erdogan.
Donc il n'y aura jamais la Turquie dans l'Union européenne ?
Écoutez, jamais ne dites jamais. Mais aujourd'hui, la Turquie de M. Erdogan, c'est une Turquie populiste, c'est une Turquie qui combat les libertés, c'est une Turquie qui emprisonne des journalistes. Donc ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, hélas.
Demanderez-vous à l'Union européenne d'arrêter de verser des aides à la Turquie dans la perspective d'une éventuelle adhésion alors ?
Écoutez, ce que nous faisons aujourd'hui, l'Union européenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle verse des aides à des associations, à des pouvoirs locaux en Turquie, pour pouvoir accueillir dignement les réfugiés syriens, 3 millions qui sont sur son sol. Et ça, il faut évidemment continuer à le faire.
Guillaume Roquette, sur le déficit.
Oui, vous disiez que vous souhaitiez garder la règle des 3%, mais apparemment, Emmanuel Macron ne vous écoute pas, puisqu'on va être au-dessus de 3% de déficit cette année. Nous sommes le mauvais élève de la zone euro, alors même que nous voulons donner des leçons d'Europe.
Nous sommes à 3,1% après une crise sociale de grande ampleur.
Et moi, après 2,8 cette année.
Et après 2,8 cette année, pour la première fois depuis très longtemps, nous avons été les mauvais élèves. Et beaucoup de nos prédécesseurs se sont lavé les mains des règles qu'ils avaient eux-mêmes édictées. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut que l'on revienne en dessous des 3%. C'est l'engagement du président de la République. Ça nécessite d'avoir une gestion rigoureuse des finances publiques, c'est le cas, mais je ne serai jamais pro-européenne si l'idée serait de ne pas être capable de répondre à un malaise social quand il s'exprime, c'est ce que nous avons fait.
Adrien,
Nathalie Loiseau, pour porter tous ces sujets, il y aura les parlementaires européens bien sûr, il y aura également une commission européenne.
Ouais.
Qui est votre candidat aujourd'hui? Est-ce que Michel Barnier, un Français, qui pour le coup lui soutient François-Xavier Bellamy, peut défendre cette politique à l'échelle de la Commission?
Michel Barnier a écrit dans un article aujourd'hui qu'il soutenait le président de la République, et Michel Barnier a rappelé qu'il n'était pas candidat. J'attends de savoir qui est candidat.
Il a dit ici au grand jury à votre place, Nathalie Loiseau, qu'il voterait pour la liste Les Républicains.
Écoutez, ce grand jury de Michel Barnier m'a donné la migraine parce que dans une phrase, il soutenait le président de la République. La phrase d'après, il expliquait qu'il était loyal aux Républicains, mais qu'il était minoritaire dans son camp, qu'il soutenait François-Xavier Bellamy, mais qu'il avait des réserves.
En même temps.
J'ai trouvé l'exercice assez compliqué et en tout cas pas franchement enthousiaste.
Peut-être parce qu'il veut rassembler justement.
Ça n'est pas à moi de dire ce que doit voter Michel Barnier. De toute façon, en ce moment, Michel Barnier, on lui demande surtout de pouvoir nous dépêtrer de ce Brexit qui est un sparadrap qui colle au doigt des Britanniques et de l'Union Européenne.
Enfin, vous entendre Michel Barnier comme président de la Commission, c'est pas enthousiasmant non plus. S'il a autant d'incohérences quand il vient dans une émission, c'est compliqué.
Écoutez, ça n'a rien à voir avec son profil et son parcours de grand européen, parce que c'en est un. Mais moi, j'attends de savoir qui est candidat à la présidence de la Commission. Aujourd'hui, les candidats déclarés, c'est M. Manfred Weber qui se dit Spitzenkandidat, un mot qu'on n'a jamais traduit en français parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens démocratique de considérer.
Quand même pour les auditeurs et les spectateurs.
C'est tête de liste. Alors voilà, il est tête de liste, donc il devrait être président de la Commission. Moi, ça n'est pas mon candidat, c'est clair, parce que je veux un candidat qui croit à l'Europe, qui soit progressiste et qui va lui sortir du statu quo. Ça n'est pas son cas.
Français, il faut que ce soit un Français pour
vous.
Il
faut que ce soit ce que je viens de vous dire. Un progressiste, quelqu'un qui croit en l'Europe, quelqu'un qui veuille sortir du statu quo,
et quelqu'un qui croit à la électeurs, et quelqu'un pas droit de savoir à qui vous pensez.
Pour la clarté de l'émission, je voudrais simplement terminer ma phrase.
Allez-y.
Et quelqu'un qui croit à la démocratie, à l'état de droit en Europe. On verra qui est candidat, et à ce moment-là, on se prononcera. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat déclaré, à part Monsieur Weber et quelques Spitzenkandidaten qui restent toujours aussi exotiques. Et le principe lui-même de cette tête de liste, je ne le soutiens pas.
Est-ce que vous voyez commissaire européenne, vous, Nathalie Loiseau?
Je suis là pour porter cette liste au Parlement européen et pour porter la création d'un groupe central au Parlement européen qui fasse la différence, sans lequel aucune majorité n'est possible. Hier, à Strasbourg, nous avons réuni autour de nous de très nombreux progressistes européens. Je vous rappelle qu'en début de semaine, on nous disait « vous n'avez pas de programme ». Et puis maintenant, on a découvert que nous en avions un. Ensuite, on nous
a
dit « vous n'aviez
pas ». Tardivement, Nathalie Loiseau, le 9 mai.
Le jour de la fête de l'Europe, ça ne me paraît pas
deux semaines avant l'élection, insensé. Les autres partis l'avaient déjà fait.
Les autres partis l'avaient déjà fait. Est-ce que quelqu'un peut me citer une proposition des autres partis? Ça a fait pchit parce que les Français avaient la tête ailleurs. Ils avaient la tête au grand débat. Ils avaient la tête à des samedis toujours dangereux, toujours violents et qui les inquiétaient. Aujourd'hui, j'espère que nous pouvons parler d'Europe. En tout cas, je le souhaite. Et puis, s'agissant des alliés, hier à Strasbourg, une dizaine de partis européens avaient envoyé des représentants. Ceux qui disaient que nous étions isolés, que nous ne pourrions pas peser au Parlement européen, découvrent que nous serons au moins une centaine de députés avec lesquels il va falloir compter.
Alors justement, puisque vous parlez d'alliance, est-ce que vous pourriez travailler avec le candidat qui va vous suivre, en tous les cas plutôt l'invité qui va vous suivre ici, Guillaume Pelletier? Est-ce que sur certains sujets, vous pouvez travailler avec lui?
Écoutez, on fait des coalitions quand on est au Parlement européen. Nous avons défini notre programme, notre projet, c'est le progrès. Le progrès pour qu'il y ait enfin une protection sociale digne de ce nom en Europe. Le progrès pour que l'Europe soit à la pointe de la transition écologique. Le progrès pour qu'on ait des champions industriels européens. Et le progrès pour qu'on soit capable de protéger l'Europe et de protéger nos frontières.
C'est possible ou pas sur certains sujets?
Ça dépendra de lui. Moi, je suis ouverte à tous ceux qui croient au progrès. J'attends qu'il le démontre.
Dernière question, Guillaume Roquette.
Oui, avec l'un de ses fils qui est présent sur votre liste, vous affirmez que Simone Veil vous soutiendrait. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de faire parler parler des gens qui sont morts.
Écoutez, je crois que Jean Veil sait mieux que quiconque. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit qu'il rejoignait notre liste parce que c'est ce que sa mère aurait souhaité. Je n'ai pas à mettre en doute la parole d'un fils par rapport à sa mère.
Merci beaucoup Nathalie Loiseau, c'était votre grand jury. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission avec donc comme invité, second invité, Guillaume Pelletier des Républicains. A tout de suite. RTL, il est midi et demi. Un point sur l'information avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Décrié par les écologistes, le glyphosate est-il dangereux pour la santé? Aucune étude scientifique ne prouve formellement qu'il est cancérogène, affirme un rapport parlementaire explosif qui va être remis au Sénat jeudi prochain. Révèle ce matin nos confrères de la Dépêche du Midi. Le gouvernement s'est engagé à interdire progressivement cet herbicide controversé à partir de 2021. Un rapport parlementaire qui met en colère le député européen José Bové. Il met en garde contre un discours qui ne tient pas la route, je cite, il évoque un révisionnisme environnemental venu des États-Unis. Les ex-otages français avaient-ils pris trop de risques durant leur séjour touristique au Bénin? La polémique continue de monter au lendemain de leur retour en France. Accueillis sobrement hier par Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a ensuite rappelé la nécessité de suivre à la lettre les consignes données par le Quai d'Orsay, même si en l'occurrence, la zone dans laquelle se trouvaient les deux touristes n'était pas classée dangereuse par les autorités françaises. Invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, la tête de liste de la majorité, Nathalie Loiseau, a dit regretter cette polémique. Les deux otages ont dit leur regret, ils vivront avec ça toute leur vie. Ça suffit, selon elle. Sa liste aux européennes est donnée deuxième désormais dans les sondages, juste derrière celle du Rassemblement National, avec 22,5% pour le RN contre 22% pour la majorité. Nathalie Loiseau évoque une marge d'erreur, même si le risque est toujours là. Elle se dit, elle serait ravie qu'Emmanuel Macron vienne dans un meeting. Près de 3 millions de téléspectateurs pour les adieux de Patrick Sébastien hier soir sur France 2. Dernière émission des années bonheur pour l'animateur qui part sans rancune. Je cite, après 23 ans d'antenne sur le service public, il s'était plaint l'an dernier de la diminution de ses émissions en prime time. La direction de France Télévisions avait ensuite annoncé son intention de ne pas le reconduire à la rentrée prochaine. Une retraite que Patrick Sébastien avait qualifiée d'éviction injuste pour ses téléspectateurs. Il avait été pris à partie lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Hier, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, annonce qu'il va porter plainte. Certains Gilets jaunes l'avaient notamment traité de collabo. Les policiers avaient dû intervenir pour l'aider à regagner sa voiture. Éric Ciotti accuse l'extrême gauche violente d'avoir volé le mouvement des Gilets jaunes. Il a reçu le soutien du président des Républicains, Laurent Wauquiez. Le sport ce dimanche en football, la Ligue 1 suite et fin de la 36e journée. Marseille-Lyon, ce soir le duel des Olympiques à suivre en direct sur RTL entre 20h et 23h. Cet après-midi à 15h, Rennes reçoit Guingamp. Bordeaux se déplacera à Lille à partir de 17h. La Formule 1 départ à 15h10 sur le circuit de Barcelone au Grand Prix d'Espagne. Valtteri Bottas s'élancera en tête devant Lewis Hamilton. Et puis le tennis, la finale du tournoi de Madrid à 18h30 entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, le jeune grec qui a battu hier soir Rafael Nadal. Dans un instant, la deuxième partie de votre grand jury avec Guillaume Pelletier.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, spéciale élections européennes. Deuxième invité, Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui donc pour ce grand jury spécial élections européennes. Toujours à mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1. Alors Guillaume Pelletier, dans la dernière livraison de notre sondage Harris Interactive, nous le disions, la nouveauté, c'est le Rassemblement National qui dépasse la liste Renaissance de la majorité, donc dirigée par Nathalie Loiseau que nous recevions juste avant vous. Mais c'est aussi le tassement sensible de votre candidat François-Xavier Bellamy avec 12,5% des voix. Après, il faut bien le reconnaître, plusieurs semaines de progression. Alors pourquoi cette baisse? Où sont passés vos électeurs? Pouvez-vous rattraper le retard et comment? Nous en parlerons bien sûr, mais quelques questions tout d'abord sur l'actualité. La première vous est posée par Adrien Gindre.
Avec le retour des otages d'Afrique, Emmanuel Macron est allé hier les accueillir à Villacoublay. Ça a suscité quelques commentaires et en particulier celui de Marine Le Pen il y a quelques minutes qui nous dit « Tout ce que fait Emmanuel Macron suscite un gros malaise. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti un malaise de voir le président de la République aller accueillir des otages comme l'avaient fait ses prédécesseurs ?»
Absolument pas. Je crois que en ces circonstances dramatiques, c'est le rôle du chef de l'État que d'être présent, tout d'abord en n'oubliant pas de saluer la mémoire de nos deux soldats d'élite qui sont intervenus, qui ont sacrifié leur vie pour sauver celle des autres.
Quel hommage sera rendu mardi aux Invalides?
Deuxièmement, de rappeler que la France se doit de traquer sans cesse et sans relâche l'État islamique et toutes celles et ceux qui s'en prennent aux intérêts de la France et de nos compatriotes. Sans oublier, bien sûr, à l'image d'un grand nombre de nos concitoyens, de souligner la légèreté, l'inconséquence en toute de l'attitude de nos otages heureusement libérés, mais qui sans doute auraient dû être davantage prudents. Et comme Jean-Yves Le Drian, nous devons appeler nos compatriotes en ce domaine à davantage de prudence lorsqu'ils se rendent dans des zones dites rouges ou compliquées.
Le président a donc eu la bonne attitude hier, c'est ce que vous me dites, Guillaume Pelletier. Autre question d'actualité, Guillaume Roquette.
Le mouvement des Gilets jaunes a confirmé sa décrue, il y avait très peu de manifestants hier. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement et le président de la République ont eu les bonnes réponses pour que ce mouvement semble s'arrêter?
Je crois qu'il y a eu deux grandes phases dans ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. Cette phase qui a commencé le 17 novembre dernier avec l'exaspération légitime d'un grand nombre de nos compatriotes sur la question du pouvoir d'achat, de l'inégalité des territoires. Ce grand mouvement qui a été progressivement remplacé par des minorités violentes. Et donc il est temps que tout cela cesse. Pour autant, je ne crois pas pour le moment que le président de la République ait pris la mesure de l'exaspération de nos compatriotes. On le voit d'ailleurs dans les taux de participation annoncés pour les élections européennes. Il y a aujourd'hui en France une exaspération, une colère qui parfois se traduit par une immense indifférence à l'endroit de l'engagement politique.
Qu'est-ce que vous auriez fait de différent, vous, si vous aviez été au pouvoir pour répondre aux Gilets jaunes?
Tout. Emmanuel Macron a choisi d'être le président de l'esquive, de la rustine, sans remettre à plat l'ensemble des politiques publiques. Ce que nous proposons, nous, avec les Républicains, est radicalement différent. Nous proposons une vision en trois temps. Je vais être bref. Tout d'abord, un grand plan de baisse des dépenses publiques. Emmanuel Macron fait exactement l'inverse. Il est le président de la hausse de la dette et des dépenses publiques. Parce que nous baisserons les dépenses publiques, baisser les charges qui pèsent sur le travail et les entreprises. Et parce que nous baissons les charges qui pèsent sur les entreprises, nous pourrons enfin augmenter les salaires de nos concitoyens, le grand drame français. Le grand moteur de l'exaspération de nos compatriotes aujourd'hui, c'est que le travail ne paye plus, c'est que les salaires sont trop bas, c'est que toutes celles et ceux qui font des efforts, qui se lèvent le matin, qui prennent des risques, nos ouvriers, nos agriculteurs, nos fonctionnaires, nos entrepreneurs, en ont marre de voir que leurs efforts ne sont jamais récompensés et que systématiquement, ils sont taxés et fiscalisés. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron en ait pris la totale mesure. Il a tenté ces derniers jours, de manière maladroite et profondément cynique, d'éteindre ces injustices que lui-même avait créées. Au fond,
pourquoi
Emmanuel Macron est une forme de pompier
pyromane.
Ah bah tout simplement, Emmanuel Macron a ce talent extrêmement préoccupant pour nos compatriotes que d'initier, de créer des injustices et de faire semblant ensuite de les régler ou de les amoindrir. C'est donc un pompier pyromane, ou plus précisément, un vrai pyromane et un faux pompier. Et ça, les Français le voient bien aujourd'hui.
Alors, autre sujet d'actualité avant d'en venir donc aux européennes, le glyphosate. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie Loiseau. Hein. Le glyphosate est moins cancérogène. Je disais que la charcuterie ou la viande rouge, c'est la conclusion du sénateur UDI d'Haute-Garonne, Pierre Médevieille, vice-président de ce groupe d'une trentaine de parlementaires, où figurent donc des Républicains. Est-ce que vous estimez, vous aussi, qu'on en fait un peu trop sur le glyphosate avant d'avoir des conclusions réelles et avérées?
Je crois surtout que sur cette question-là, on enfume nos compatriotes. Je m'explique. Il y a des suspicions assez lourdes sur la question du glyphosate et ces suspicions me semblent légitimes. Il est donc logique que les pouvoirs publics s'engagent à vouloir tourner la page du glyphosate à deux conditions majeures. La première, c'est de proposer à l'ensemble de nos agriculteurs des solutions alternatives en investissant dans la recherche et l'innovation, ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, un grand nombre de nos agriculteurs ne peuvent pas se passer de glyphosate parce que la puissance publique est en retard. Et puis le deuxième problème, c'est ce mensonge et cette illusion aujourd'hui insupportable pour nous, les habitants du monde rural, je suis élu député du Loir-et-Cher,
oui.
C'est de nous dire, nous allons interdire le glyphosate en France, à horizon 3 ans, sans rien dire de tous ces produits traités au glyphosate du monde entier qui continuent à être importés dans l'Union européenne et sur notre territoire. En un mot, dans nos assiettes, nous continuons à consommer des produits soumis au glyphosate ou à d'autres pesticides parce que l'Europe est incapable de nous protéger. C'est l'un des grands sujets.
Est-ce que vous êtes pour l'interdiction à 3 ans en France ?
Je suis pour l'interdiction de tout ce qui est dangereux à la condition, je dis bien à la condition que les pouvoirs publics investissent pour proposer à nos agriculteurs des produits
donc
alternatifs.
Donc vous ne dites pas 3 ans, Guillaume Pelletier.
Eh bien, si l'État et la puissance publique, en lien avec les entreprises privées, sont capables en 3 ans d'imaginer des alternatives, oui, si ce n'est pas le cas, non.
Ce n'est pas en se fixant un objectif qu'on arrive aussi à des résultats ?
Si l'objectif de 3 ans, c'est de trouver une parade durable et concrète pour nos agriculteurs au glyphosate, oui.
Alors, question maintenant sur les européennes, hein, puisque je le disais dans l'introduction de votre émission, il y a un tassement de François-Xavier Bellamy dans les sondages, après une embellie réelle pendant plusieurs semaines. Comment vous expliquez que François-Xavier Bellamy soit en train de perdre des électeurs alors qu'il était plutôt sur une pente ascendante ?
Je crois que d'abord, vous avez tout à fait raison, et ça doit être salué, avec François-Xavier Bellamy et l'ensemble des colistiers, dont un certain nombre sont présent avec moi ce matin, il y a une dynamique. La droite est en train de sortir des abîmes et c'est une bonne nouvelle, même si nous devons rester modestes.
Si vous terminez à 12,5, c'est une dynamique.
C'est encore insuffisant. Bruno Retailleau le disait à cette place il y a quelques semaines, nous ne devons pas nous satisfaire de ce score. Mais nous devons rester tout à la fois modestes et lucides. Vous savez que l'élection européenne est l'élection pour laquelle la cristallisation des suffrages se produit généralement de manière tardive et il est assez fréquent que les suffrages viennent contredire les sondages. On s'en souvient il y a 10 ans que ce sont dans les 3 derniers jours que les courbes se sont croisées entre François Bayrou et Daniel Cohn-Bendit, par exemple. Deuxièmement, puisque vous nous parlez des sondages, soyons précis, seulement 42% des Français à l'heure nous parlons disent leur intention d'aller voter. À nous de convaincre les 58 autres de nous rejoindre.
Mais les Européens ont toujours une élection à faible participation.
Et parmi ces 42%, ce qui est très inédit, c'est que 35% de nos compatriotes qui nous disent aller voter n'ont pas encore fixé leur choix. Donc il nous faut rester optimistes, je suis optimiste, nous sommes dans une dynamique et surtout je salue à travers François-Xavier Bellamy, à travers notre liste, à travers Laurent Wauquiez, la capacité enfin de la droite à présenter un visage uni. Regardons à travers Christian Estrosi, François Baroin, Valérie Pécresse, Arnaud Robinet et tant d'autres, tous ces talents et tous ces ténors qui aujourd'hui rejoignent
enfin, Jean-Pierre
la droite
qui était en meeting hier à Strasbourg avec Nathalie Loiseau.
Oui, il y en a quelques-uns qui sont encore égarés. Jean-Pierre Raffarin, pour lequel j'ai beaucoup de respect par ailleurs, nous sommes voisins dans nos territoires, c'est le Premier ministre qui a subi le traité constitutionnel, la victoire du nom du peuple français, et je pense que ces générations politiques, en 2005, ces générations politiques ont éloigné l'Europe de nos compatriotes. Notre volonté, nous, la nouvelle génération, avec les Républicains, c'est d'être une liste profondément pro-européenne, mais pas cette Europe-là qui, depuis une vingtaine d'années, ne marche plus.
Jean-Pierre Raffarin cherche à laver un affront, c'est ça que vous nous dites quelque part, alors en allant rejoindre...
Il cherche probablement à effacer l'échec de 2005 en faisant croire que l'Europe de demain serait de continuer à travers l'Europe qui ne marche pas. L'Europe d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe qui ne marche pas. Nous voulons la transformer en profondeur.
Guillaume Roquette.
Vous parliez de dynamique Bellamy, mais il n'a pas récupéré ce qui était les 20% de François Fillon au premier tour des présidentielles. On le disait, 12,5% aux dernières estimations. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui fait que les électeurs de droite ne sont pas encore revenus au bercail ?
Guillaume Pelletier.
Parce que nous sortons d'une année 2017 qui fut cruelle pour la droite, que nous sommes en convalescence, que cette dynamique est là, que cette unité est là. Et surtout, et c'est l'enjeu entre autres de cette émission et des 15 jours qui restent, parce que Emmanuel Macron et Marine Le Pen jouent à notre sens un jeu extrêmement dangereux que de confisquer le débat démocratique. J'oppose en cet instant à tous ceux qui nous écoutent, ouvriers, travailleurs, entrepreneurs, fonctionnaires français, 2 questions toutes simples. Est-ce que le 26 mai, la victoire de Marine Le Pen serait pour la France une bonne nouvelle ? Non. Est-ce que le 26 mai, la victoire d'Emmanuel Macron serait pour la France une bonne nouvelle ? Non. 75% de nos compatriotes considèrent qu'Emmanuel Macron a échoué comme président de la République et 75% de nos compatriotes considèrent que les idées de Madame Le Pen ne sont pas bonnes pour notre
pays. Mais comment vous expliquez que les
compatriotes ont raison. Mais parce que nous avons, mais vous avez raison, soyons modestes, nous avons, dans ces 15 derniers jours, à amplifier notre effort pour convaincre nos compatriotes que le choix dans lequel Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent d'enfermer les Français est un choix mortifère. Ne jouons pas le jeu d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Soyons des électeurs libres et souverains et choisissons une alternative. Il existe une autre voie, il existe un troisième choix, et ce choix, c'est le choix des Républicains et des centristes.
Nathalie Loiseau a lancé un appel assez clair à Emmanuel Macron pour qu'il vienne en meeting. En tous les cas, elle ne serait pas opposée, au contraire, à ce que le président de la République vienne la soutenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a des figures de droite qui doivent venir aussi soutenir François-Xavier Bellamy? Vous voyez à qui je veux penser, à Nicolas Sarkozy. Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy vienne faire un meeting aux côtés de François-Xavier Bellamy?
Chacun connaît ma proximité avec Nicolas Sarkozy, j'en ai été le porte-parole. Je crois que la vie politique aujourd'hui commande, tout en respectant celles et ceux qui ont présidé aux destinées de notre pays, que nous prenions, nous, notre destin en main. Bien sûr que je me réjouirais que Nicolas Sarkozy puisse émettre quelques messages, et je n'ai aucun doute sur son vote le 26 mai. Mais je crois qu'il nous a demandé aussi, en quittant la vie politique, à nous, la nouvelle génération, de prendre nos responsabilités. Et nous devons incarner, et ça n'est pas encore le cas, je le dis avec beaucoup de franchise, cette alternative crédible, solide et durable à la politique du président de la République et à sa principale opposante, Mme Le Pen.
Vous reconnaissez que vous n'incarnez pas cette alternative.
Pas encore.
Qu'il manque aujourd'hui pour que ce soit le cas.
Il fallait tout d'abord accepter le temps long et retrouver le chemin de l'unité. C'est déjà le cas. Nous pouvons quand même rendre hommage à Laurent Wauquiez que d'être parvenu au lendemain d'une année terrible, l'année 2017, à recréer l'unité de la droite républicaine. Deuxièmement, nous devons percer le mur du son et expliquer à nos compatriotes, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui suffisamment, qu'il existe un autre choix que celui dans lequel Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent
mais
de nous enfermer.
Mais ce n'était pas le rôle de Laurent Wauquiez de faire ça, mais en tant que chef de parti, venir devant les électeurs. Est-ce que ce n'était pas son rôle?
Non, je crois que Laurent Wauquiez a eu raison, parce que c'est aussi un de ses engagements de campagne, que de faire émerger des nouveaux visages. Et je crois qu'avec François-Xavier Bellamy, avec Agnès Evren, avec Arnaud Danjean, avec Lydia Guirous, avec Romain Bonnet, avec tant d'autres qui constituent notre liste, nous sommes aujourd'hui en capacité d'incarner
parce
autre chose.
Mais il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que c'est parce que Laurent Wauquiez est beaucoup plus clivant qu'un François-Xavier Bellamy?
Non, je ne le crois pas. Je crois que Laurent Wauquiez incarne cette force des convictions. Et puis vous savez, Benjamin Sportouche, je le redis avec humilité, mais avec détermination, à l'heure où nous parlons, un tiers de nos compatriotes n'ont pas fixé leur choix. Nous ferons l'analyse le 26 mai au soir. Mais nous avons d'ores et déjà sorti la droite de l'abîme. Et c'est très important.
Mais
ça n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui.
Vous avez tiré un trait sur la première place.
Ah, pas du tout. Ah, moi j'espère. Ah. J'espère que les Français... Vous savez, entre 22% pour les listes Macron-Le Pen et 12,5, 13, 14, 15 dans d'autres sondages pour la nôtre, c'est donc 7 à 10 points d'écart. 7 à 10 points d'écart avec un taux de participation annoncé aussi faible, c'est quelques dizaines ou centaines de milliers de voix.
Donc vous pensez toujours pouvoir arriver
premier.
Notre
conviction, c'est que si les Français, le 26 mai, veulent préparer autre chose pour notre pays, ne veulent pas donner un chèque en blanc à M. Macron et sa politique d'injustice fiscale, sociale et territoriale, ne veulent pas donner un chèque en blanc à Mme Le Pen et sa politique de division et de fragmentation de notre pays et de recul de la France en Europe, ils ont l'opportunité de choisir la seule liste en situation et crédible. C'est la nôtre, celle des Républicains et des centristes.
Vous qui êtes un ancien du Front National, il y a de nombreuses années maintenant, Jordan Bardella, il incarne un nouveau visage au Front National. Il est jeune, il a à peine plus de 20 ans, 23-24. Qu'est-ce qui est vraiment répulsif chez lui, pour vous?
Autant de choses dans le... Moi, je n'attaque jamais les personnes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les projets qui sont présentés. Le projet de Mme Le Pen se résume de manière assez simple. C'est la France sans l'Europe. Comment notre génération peut considérer que la France puisse avoir un avenir sans construction européenne. Nous avons l'euro, nous avons besoin de l'Europe, nous avons besoin, sur un certain nombre de sujets, les négociations commerciales, les politiques migratoires, d'être plus fort à plusieurs. C'est donc la nation sans l'Europe, c'est le projet de Mme Le Pen. Il y a en face, avec M. Macron, un programme qui est l'Europe sans les nations. C'est-à-dire une sorte de fuite en avant de tout ce qui n'a pas marché. Et au milieu, il y a ce troisième choix. C'est l'Europe des nations. C'est l'Europe qui associe des nations souveraines. Nous croyons dans les souverainetés nationales. Guillaume Roquette a commis un papier ce week-end, que j'ai trouvé, moi, pour ma part, assez juste, puisque j'avais voté non au traité constitutionnel en 2005, sur le message que nous envoyaient et le général de Gaulle et Philippe Séguin en 1992. C'est que l'avenir de l'Europe, l'avenir des nations libres, c'est d'additionner des nations souveraines capables de se protéger, de défendre leurs intérêts vitaux et de confier à l'Europe ce pourquoi nous ne sommes pas suffisamment efficaces seuls. On peut prendre quelques exemples à travers notre projet, parce que nous avons un projet européen. Sur l'immigration, nous sommes les seuls, par exemple, à dire qu'il nous faut tout à la fois défendre nos frontières nationales et défendre nos frontières européennes. Et nous y ajoutons d'ailleurs, parce que nous pensons à l'avenir, c'est le grand défi de ma génération, un grand plan Marshall de co-développement avec les pays du Sud, parce que chacun sait que la cause première des migrations, c'est la détresse et la misère
Guillaume
des pays
Pelletier.
Du Sud. C'est pareil sur la question
Guillaume
de l'islam, c'est pareil sur la question des protections commerciales ou de l'écologie.
Marine Le Pen estime que le président de la République nationalise l'enjeu parce qu'il est très présent dans la campagne et que si jamais il perd et qu'il n'arrive pas premier, il doit quitter le pouvoir. Que répondez-vous ?
Je dis que tout ça est caricatural et n'est pas à la hauteur des enjeux. Si Mme Le Pen avait dû quitter la présidence de son parti à chaque fois qu'elle avait perdu une élection, ça fait bien longtemps qu'elle ne serait pas aujourd'hui dans le débat public. Je crois qu'il faut sortir de ces vieilles querelles. L'enjeu clé qui est présenté aux Français, c'est quelle France nous voulons, c'est quelle Europe nous voulons. Nous avons des sujets majeurs qui nous préoccupent. La question de l'immigration, nous venons de l'évoquer. Prenons aussi la question de l'islam politique, dont même Emmanuel Macron aujourd'hui s'est fait, à juste titre, pourfendeur, même si il y a un fossé assez immense entre ses paroles et ces actes. Nous sommes les seuls, nous, les Républicains, dans notre projet, à proposer, par exemple, une charte des valeurs européennes que toute personne voulant venir sur le territoire européen se doit de signer pour accéder à un titre de séjour. C'est l'affirmation haut et fort des primautés des lois de la République, des lois politiques sur les lois religieuses. C'est le refus de la polygamie, de l'excision. C'est l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Ça,
c'est la promotion de la valeur de la laïcité. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement. Imaginons une seule seconde, si nous sommes en tête, si le PPE arrive à constituer une majorité, le Parti Populaire Européen, nous souhaitons, avec Laurent Wauquiez, imposer cette charte et dire que toute personne qui fait la demande d'un titre de séjour ne pourra le recevoir que s'il s'engage concrètement à signer ce document. Et si ce document n'était pas respecté, il serait immédiatement expulsé
Guillaume
du territoire
Pelletier,
européen.
Sur les frontières nationales, vous avez exactement la même position que le Rassemblement national qui veut donc remettre en place la double protection avec des frontières nationales.
Non, il y a deux différences majeures avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national ne parle que des frontières nationales. Nous, nous considérons qu'il faut protéger les frontières européennes, première grande différence. Et deuxièmement, je pense que vous m'avez écouté, c'est d'ailleurs ma part que j'apporte depuis désormais deux ans, en lien d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy, en lien avec Jean-Louis Borloo, avec lesquels je travaille sur ce sujet, ce plan Marshall de co-développement avec les pays du Sud, parce que pour nous, les causes des migrations, c'est la détresse des pays du Sud.
Vous parliez de l'islam, il y a une liste européenne qui va s'appeler Union des démocrates musulmans français. Est-ce que ça vous choque ?
En tout cas, cela me préoccupe et je vais vous dire pourquoi. Je combattrai toujours ceux qui font de la religion une politique. Et je demande en cet instant au ministre de l'Intérieur d'être particulièrement vigilant. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour juger par moi-même, mais je considère qu'il y a une ligne rouge qui ne peut pas être franchie. C'est-à-dire que toute liste qui ne reconnaîtrait pas la primauté des lois de la République sur une loi religieuse n'a pas vocation à se présenter au suffrage de nos compatriotes. Si c'est le cas, je souhaite que le ministre de l'Intérieur interdise à cette liste la possibilité de se présenter. Si ça n'est pas le cas, elle pourra se présenter.
Donc
mais voilà la ligne que nous devons édicter
très vigilant sur
avec
le sujet. Vous souhaitez que le ministère de l'Intérieur soit très vigilant sur cette liste en
Exactement.
Particulier. C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Alors, même question qu'à Nathalie Loiseau. Pour ou contre Guillaume Pelletier, un président de l'Europe ?
Pourquoi pas un jour, mais l'urgence et l'enjeu ne sont pas ceux-ci aujourd'hui. Je préfère que nous consacrions toute notre énergie à réinventer une Europe qui protège nos intérêts vitaux, nos ouvriers, nos usines, nos agriculteurs. Tel est l'enjeu.
Là, vous avez un point commun, puisque Nathalie Loiseau nous a dit aussi pourquoi pas. La fin de la règle des 3% de déficit en Europe.
C'est une règle qui m'a toujours exaspéré.
Ah, bon.
Pour une raison simple.
Contrairement à votre parti, qui n'est.
C'est vrai. Pour une raison simple, c'est qu'au nom de quoi quelques commissaires, technocrates non élus, hauts fonctionnaires qui se permettent de diriger l'Europe, imposeraient aux peuples européens, des nations libres, des critères comptables et financiers. François Mitterrand avait une jolie phrase, hélas, qui s'est révélée juste. « Après moi, disait-il, il n'y aura que des comptables et des financiers. » Je crois en la primauté de la politique. Je crois en la baisse des dépenses publiques. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais ça n'est pas à l'Europe et à Bruxelles de fixer des critères.
Un salaire minimum européen ?
oh, déjà, balayons devant notre porte et augmentons les salaires dans notre pays par la baisse des charges sur les entreprises.
Une armée européenne d'ici 5 ans ?
Certainement pas. Je crois à la souveraineté de nos institutions et entre autres de nos armées. Je suis par contre favorable à ce qu'il y ait des forces d'intervention européennes, c'est-à-dire qu'on additionne les talents et les capacités.
La Turquie dans l'Union européenne
pour Non, jamais.
Est-ce que vous pourrez travailler avec Nathalie Loiseau sur certains dossiers? Elle a dit qu'elle pouvait éventuellement, si jamais vous entendez au Parlement européen.
Bien sûr, à partir d'idées telles que celles que je les ai défendues, si elle les soutenait, j'en serais ravi parce que la politique, c'est l'art de convaincre un grand nombre de nos concitoyens, des autres élus, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire.
Enfin, dernière question, est-ce que Laurent Wauquiez est pour vous le candidat naturel de votre parti en 2022? Il n'a pas été candidat cette fois-ci, est-ce qu'il le sera au présidentiel ou faudra-t-il une primaire, Guillaume Pelletier?
Obtenons déjà un score significatif aux élections européennes, remportons les élections municipales, préparons-nous pour les élections départementales et régionales, soyons modestes, Laurent Wauquiez est un très bon président, il est en train de le démontrer, nous verrons tout cela dans quelques temps.
Donc il n'est pas forcément candidat naturel de votre parti pour 2022.
Mais personne ne l'est, par contre, parce qu'il est en train de réaliser, il marque des points significatifs et c'est tout à son honneur.
Merci Guillaume Pelletier, c'était votre premier grand jury pour cette spéciale élection européenne, merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Thank you.